おかしいおかしい。ちょっと待って、
bonsoir et merci de vous joindre à nous dans cette tribune de la presse de ce vendredi 13 juin 2008, date marquant le premier anniversaire de la mort de notre regretté confrère Serge Maïché, assassiné à Bukavu par des hommes armés. Au nom de toute la famille Okapi, nous lui dédions donc cette tribune de la presse. Nouveau chef d'accusation contre le sénateur Jean-Pierre Bemba et probable gel des ses comptes bancaires à la demande de la Cour pénale internationale. 5 millions de dollars américains, montant que le gouvernement des États-Unis promet pour tout renseignement utile sur 13 génocidaires rwandais supposés encore présents en RDC. Visite d'une délégation du Conseil de sécurité le 7 juin dernier en RDC. Au cours de cette visite, le Conseil de sécurité a réaffirmé l'engagement de consolider la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Ce sont là les sujets que nous allons aborder ce soir dans ce rendez-vous hebdomadaire de la presse avec nos invités. Il s'agit de Félix Kabouizi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus, qui paraît à Kinshasa, Michel Toumba, directeur provincial de l'agence congolaise de presse Bandundu, Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Beni dans le Nord Kivu, et Albert Omba, journaliste des Numérica et Tropicana FM de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais donc dans le titre, 13 juin 2007, 13 juin 2008, un an s'est écoulé depuis que notre confrère Serge Maïché est mort abattu dans une rue de Bukavu par des hommes armés. Des messes d'action de grâce ont été dites en sa mémoire ce vendredi à Bukavu dans le sud Kivu et à Kinshasa. Par rapport à ce jour d'anniversaire de l'assassinat de Serge Maïché, une réaction, c'est celle de journalistes en danger, ZED, cette ONG des deux et promotion de la liberté de la presse, estime bien que deux personnes aient été condamnées, il demeure encore des zones d'ombre quant aux commanditaires de l'assassinat. Pour le secrétaire général de GED, le gouvernement doit libérer la justice et faire des assassinats des journalistes des crimes contre l'humanité. Félix Kabouizi, bonsoir. Vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa. Quel sentiment avez-vous par rapport à la journée d'aujourd'hui?
Bon, c'est d'abord vraiment une journée de triste mémoire puisque lorsque nous perdons un confrère assassiné dans des conditions que vous venez de rappeler, et ça ne peut que nous rappeler vraiment des moments très difficiles que la corporation continue de vivre dans notre pays. Et nous demandons tout simplement à la famille de garder courage puisque en fait on n'a plus rien pour le moment. Mais effectivement nous nous révoltons malheureusement par rapport aux résultats des enquêtes qui ont été engagées. Et il n'y a pas que nous, même la MONUC c'était également plein et d'autres organisations. On a vraiment le sentiment que on n'a vraiment pas du tout touché à la vérité autour de la mort de notre confrère.
Merci Félix Kabouizi. Michel Toumba, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Vous êtes directeur provincial de l'agence congolaise de presse Bandundu. Une impression par rapport à cette date?
Eh bien, une date difficile, une date de tristesse. Du moins, dans la province de Bandundu, les journalistes ont travaillé, mais en gardant une pensée pieuse à Serge Maïché, qui a été abattu. Eh bien, tout ce que je peux dire à l'instant, c'est de rappeler le thème de la Journée internationale de la liberté de la presse pour l'année 2006, sécurité pour les journalistes, et que ce thème qui avait été retenu par l'ONU. Et comme on vient de dire le confrère Félix, le gouvernement congolais doit faire un effort pour protéger, pour sécuriser les journalistes. Parce qu'il n'y a pas de démocratie réelle sans presse. Alors, nous avons tous l'intérêt de sécuriser les journalistes et la presse pour que la démocratie congolaise aille de l'avant.
Albert Omba, un avis à émettre par rapport à ce que nous déplorons aujourd'hui?
Oui, juste un sentiment de tristesse et de consternation aussi. Quand on se rappelle l'assassinat de notre confrère Serge Maïché, et surtout de l'évolution pas tout à fait positive du procès, ça nous fait mal au cœur. de constater que un confrère qui a été abattu lâchement, comme tout le monde le connaît, et son procès patauge jusqu'à ce moment. Et ce qu'on voudrait, c'est que les autorités judiciaires puissent revoir un peu les conditions dans lesquelles ce procès pouvait évoluer et aboutir à des conclusions assez satisfaisantes.
Merci Albert Omba. Nicodème Bakoleta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Béni dans le Nord Kivu. Une phrase par rapport à la commémoration du premier anniversaire de l'assassinat de Serge Maïché.
Oui, d'ailleurs, je dirais comme tous les autres confrères que c'est une date triste et la consternation est grande dans la mesure où, malgré le procès, on n'arrive pas aujourd'hui à connaître les commanditaires, on ne connaît pas les raisons qui ont poussé, à l'arrestation, à l'assassinat, je veux dire, de Serge Maïché. Et puis, ça fait peur, non, ici à l'Est, on a peur, on s'est dit, ben, c'est arrivé à Serge, qui sait, peut-être demain, ça peut arriver à un autre, ça met un sentiment de tristesse et de peur.
Merci Nicodème Bakoleta, que son âme repose en paix. Des nouveaux chefs d'accusation contre l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba viennent d'être ajoutés par la Cour pénale internationale. Outre le viol, torture et pillage en Centrafrique, le procureur de la Cour pénale internationale l'accuse aussi de meurtre dans le même pays. Ces nouvelles accusations feront que le leader du MLC soit poursuivi pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre. Les comptes bancaires de Jean-Pierre Bemba seraient également gelés sur demande de la Cour pénale internationale. Information non confirmée par la Cour pénale internationale à travers son porte-parole en RDC, Paul Madidi, que nous avons interrogé.
Le procureur de la Cour pénale internationale, dans ses responsabilités, peut à tout moment ajouter de nouvelles charges aux suspects, c'est-à-dire aux prévenus. Avant la confirmation des charges, avant le procès, il peut donc, le texte lui permettre d'ajouter à tout moment de nouvelles charges. En ce qui concerne donc cette affaire Bemba, effectivement, donc on a ajouté les crimes de meurtre.
Paul Madidi, est-ce que la CPI a également demandé les gels des comptes bancaires de Jean-Pierre Bemba, une demande selon plusieurs sources adressée au procureur général de la République?
À ce stade, je ne peux rien confirmer.
Dans la procédure de la Cour pénale internationale, il est possible que le procureur ou les juges arrivent à cette demande-là de dégeler les comptes ou les biens d'un tel ou tel autre suspect?
Effectivement, c'est une procédure tout à fait normale. C'est arrivé déjà avec M. Lubanga. Il y a eu une demande en effet de geler ses biens. C'est une procédure tout à fait normale. Ça peut être fait à titre préventif, tout comme carrément une saisie de biens si la personne est reconnue coupable.
La CPI a adressé une lettre de sa remise dans le concours. Vous confirmez cela aussi?
Oui, effectivement, depuis le 10 juin, les juges de la chambre préliminaire 3 qui s'occupent de cette affaire-là ont adressé une lettre au Royaume de Belgique afin que celui-ci lui remette officiellement M. Bemba, afin que la procédure commence effectivement devant la Cour pénale internationale.
Son transfert pourra s'effectuer dans combien de jours, une date, un délai?
Je ne suis pas en mesure de le dire, d'avancer une date, mais évidemment cela dépend des juges belges.
L'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, maître Aimé Kilolo, juge aussi normal la procédure de la CPI, mais estime-t-il qu'on ne doit pas bloquer tous les avoirs de quelqu'un? Aimé Kilolo est joint depuis Bruxelles par notre confrère Paul Matendo.
Lorsque une personne est inculpée par la CPI, le premier acte, un des premiers devoirs posés par le bureau du procureur, c'est justement d'identifier le compte bancaire de l'inculpé, débloquer pour que ceci puisse servir, le cas échéant, à indemniser les potentielles victimes. Je pense que nos confrères avocats à Kinshasa se chargent utilement d'examiner cette question. Il faut savoir qu'on ne peut pas non plus bloquer tous les comptes d'une personne, d'abord parce qu'il y a le respect de la présomption d'innocence.
Ce même dossier, la demande de l'arrestation et la remise de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale devra être examinée après la comparution de la défense à la Cour de cassation belge, selon Maître Aimé Kilolo toujours. Il faut, dans un premier temps, vider la question préalable qui est toujours en cours. Notez que ce sujet était également débattu hier jeudi à la plénière de l'Assemblée nationale. Félix Kabouzi, le taux se resserre de plus en plus autour du leader du MLC.
Oui, effectivement, les choses semblent nettement se compliquer, puisque par le passé, M. Bemba était poursuivi pour 3 chefs d'accusation. Maintenant, on en a ajouté 2 autres, et qui sont tout aussi assez lourds. Je crois que, effectivement, il y a lieu maintenant de craindre davantage vraiment pour l'avenir politique de M. Bemba. Puisque vous savez que avec les crimes qu'on a ajoutés, le crime de meurtre, et qui sont considérés comme des crimes des crimes de guerre, mais également des crimes contre l'humanité, il est fort possible que si jamais toutes les preuves avancées s'avéraient exactes, ça deviendrait extrêmement très difficile pour M. Bemba de s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment espérer que, puisque lorsque ces infractions ont été commises en Afrique, plutôt en République centrafricaine, M. Bemba avait quand même organisé, si vous voulez, un procès contre ses propres militaires. Et l'ONU avait également enquêté sur ces crimes-là qui avaient été avancés. Il faudrait peut-être espérer que M. Bemba ou ses avocats auront la possibilité de démontrer le contraire. Mais je pense sincèrement qu'il y a lieu effectivement d'être assez pessimiste.
Michel Toumba, vous êtes directeur provincial de l'agence congolaise de presse. Vous avez suivi notre confrère Félix Kabouzi qui dit qu'il faut vraiment, par rapport à ces nouvelles charges sur le président du MLC, craindre pour son avenir politique. Il souhaite à ce que ses avocats puissent recourir à ce que le sénateur Jean-Pierre Bemba avait organisé après les actions qui ont été commises en Centrafrique. Il y a eu des procès qu'il a organisés. Et donc ça, c'est la lecture qu'a fait Félix Kabouzi.
Je suis parfaitement d'accord avec Félix quand il dit qu'il y a à craindre sur l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba. Il a maintenant 3 chefs d'accusation sur lui. Et quand on sait que ça prend beaucoup de temps, énormément d'années, pour arriver à la fin de l'instruction, ça peut prendre 2, 3, 4 ans, ça dépend de la Cour pénale internationale, alors vraiment l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba est en danger. Ça, je suis d'accord avec Félix. Mais moi, je pense que je peux rester optimiste, parce que je pense que Jean-Pierre Bemba, quand on voit ce nouveau feuilleton, quand on est dans ce feuilleton judiciaire du sénateur Jean-Pierre Bemba, il y a lieu de craindre et il y a aussi lieu de ne pas avoir peur, parce que il y a notamment 3 raisons, ou du moins 2, qui rassurent le conseil de Jean-Pierre Bemba. Il faut que les gens se rappellent que les militaires congolais, alors du MLC, comme mouvement politico-militaire, s'étaient rendus à Bangui sur invitation du président Félix Patassé. Et il l'a fait en tant que président de la République légalement élu et en exercice. Donc c'était là une invitation légale, une invitation officielle, une invitation établie en bonne et due forme par la République centrafricaine, par le biais d'un président élu et en exercice. Pas que de 1, de 2. Quand ces militaires sont arrivés à Bangui, ils avaient été mis à la disposition du président centrafricain H. Félix Patassé. Ce dernier les avait mis ensuite à la disposition du chef de l'unité de sécurité présidentielle, la fameuse USP, et que dirigeait le colonel Bombayaké. Alors, ces militaires ont opéré sous les ordres directs du colonel Bombayaké, qui, on suppose, recevait les ordres de son chef direct, Ange Félix Patassé, en tant que commandant suprême de l'armée centrafricaine. Donc, sur le plan du droit, et cela saute aux yeux, que la responsabilité juridique des actions militaires des hommes de Jean-Pierre Bemba, République centrafricaine, repose et va continuer à reposer encore longtemps sur les commandants des opérations, les colonels Bombayaké, et sur le président Patassé, qui était le commandant suprême de l'armée centrafricaine.
Merci.
Et bien, cela s'ajoute... Oui,
allez-y, continuez.
Oui, cela s'ajoute au viol, au pillage, au crime qui ont été commis. Moi, je pense que cette dernière prévention, cette dernière chef d'accusation va suivre la même logique que les deux premiers.
Merci Michel Toumba, Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM ici à Kinshasa. Vous avez suivi Michel Toumba, je retiens, il a rejoint pratiquement Félix Kabuji. D'abord dans le premier volet, il a accepté qu'il faut craindre pour l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba, mais dans la deuxième partie de son argumentaire, il a dit qu'il ne faut pas également craindre parce que les responsabilités juridiques il y a les militaires, les commandants des Bozizé qui sont également impliqués dans cette affaire et qu'il faudra que la justice en tienne également compte. Quelle réaction avez-vous par rapport à cela?
Oui, je crois en suivant l'évolution actuelle du dossier, je crois que la défense de M. Jean-Pierre Bemba devait...
Ouais. Une petite précision, il a parlé de commandant de Patassé, pas de Bozizé, l'actuel président.
Okay. Je vois, vu le niveau auquel le dossier a atteint, j'espère que la défense doit surtout se contenter sur les fonds de l'accusation, que prendre trop de temps pour la forme, c'est-à-dire trouver tout le moyen nécessaire pour défendre Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire réfuter toutes les accusations à sa charge. Et ce n'est pas une tâche facile. C'est à cette tâche-là qu'il doit s'atteler tout l'arsenal juridique de la défense. Alors, tous les aspects formels, politiques ou du dossier, ça va suivre parce que la liste est encore longue. Dans ce dossier centrafricain, il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba qui est inculpé, il y a d'autres qui vont suivre. Alors, je ne vois pas comme le doyen Félix a dit, l'avenir politique de M. Jean-Pierre Bemba, compte tenu de la lourdeur de la procédure de la CPI, son avenir vraiment est à danger parce que le temps qu'on puisse terminer le dossier, le premier mandat serait déjà presque épuisé et la campagne électorale pourrait aussi passer outre la présence de Jean-Pierre Bemba, ce qui est dangereux pour son avenir politique.
Nicodème Bakouleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Beni, dans le Nord Kivu, vous avez suivi les confrères et le dernier, c'est Albert Omba qui dit qu'il faudrait que la défense de Jean-Pierre Bemba puisse se focaliser plus sur le fond de l'accusation et rejeter avec de preuves tout ce qui est comme charge à l'endroit du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et il dit également que la liste est très longue, mais il a rejoint Félix Kabuji en disant que l'avenir de Jean-Pierre Bemba est déjà en danger parce que avec les élections qui s'annoncent, quel point de vue avez-vous?
Oui, en fait, les avocats de Jean-Pierre Bemba auront une tâche dure. Hein. Ça sera pas facile de rejeter toutes les accusations portées à charge de Jean-Pierre Bemba. Ce qu'il est connu de tout ce que Jean-Pierre Bemba a envoyé ses hommes en République centrafricaine pour soutenir Ange Félix Patassé, alors président de la République, République centrafricaine. Bon, l'affaire aujourd'hui se complique davantage et il est tout à fait vrai que l'avenir politique même de Bemba est en danger. Mais aussi, il faut souligner que par respect des victimes, et s'il s'avérait que les soldats de Jean-Pierre Bemba ont commis des crimes en République centrafricaine, par respect des victimes, il faut que justice soit faite, que la CPI, qui se veut être une juridiction de dernier recours, puisse trancher l'affaire. Mais au-delà de tout ça, il ne faut jamais perdre de vue que, même s'il y a des accusations qui s'ajoutent, que Bemba est présumé coupable. Donc, tant qu'il n'aura pas encore la confirmation des charges portées contre lui, il bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, on a appris que le procureur a signé le mandat d'arrêt définitif à remplacement du mandat d'arrêt provisoire. Et cela, je trouve que ça traduit la volonté de la Cour d'accélérer les démarches pour le transfert de M. Bemba à la haie. Mais là aussi, il y aura deux possibilités, comme on évoqué, les confrères. Soit l'effet mis en charge contre Bemba se confirme, et dans ce cas, Bemba sera condamné. Ou soit les faits seront balayés par la défense, et là, Bemba sera acquitté. Mais alors, vous comprenez avec moi qu'il y a
au stade actuel, il serait prématuré de parler des gels de ses avoirs. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas encore confirmer les charges, on est encore à l'étape préliminaire. Parler des gels de Jean-Pierre Bemba, à mon sens, il n'est pas pour le temps. Et puis encore, bloquer les comptes de ses enfants ou de son épouse, ça serait aussi un crime contre sa famille.
Merci. Merci Nicodème Bakoleta. Rapidement pour boucler ce chapitre, Félix Okabouzi, par rapport à toutes ces charges qui s'ajoutent sur les leaders du MLC, quelle analyse vous pouvez faire quant à sa famille politique actuellement? Pensez déjà à un autre leader ou à un leadership au niveau national?
Oui, moi je crois que passé le moment de choc, hein, après l'annonce de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, je pense vraiment qu'au sein du MLC, la hiérarchie politique devrait effectivement commencer maintenant à voir la réalité en face, savoir qu'ils ont des échéances politiques qu'ils doivent assumer. Le MLC, c'est un parti qui mobilise quand même beaucoup de Congolais, qui traduit aussi, hein, qui conduit, si vous voulez, les aspirations d'un certain nombre de Congolais. Donc on ne devrait pas, à mon avis, laisser le sort du MLC lié à la personne de Jean-Pierre Bemba. C'est vrai, il en a été l'initiateur. Maintenant, il n'a aucune possibilité, en tout cas, de pouvoir diriger ce mouvement-là, et probablement pour assez longtemps. Donc il va falloir qu'au niveau du MLC, les gens comprennent que Bemba n'étant pas physiquement en mesure de diriger le mouvement, il va falloir qu'on mobilise des défenseurs, des avocats pour suivre son cas, mais en même temps qu'ils commencent à leur niveau ici à s'organiser pour que le parti ne puisse vraiment pas disparaître avec son fondateur, et que également de leur côté qu'ils puissent resserrer les rangs, resserrer les rangs de manière à ce que le parti demeure soudé dans cette épreuve.
Merci. Albert Omba, vous avez un mot à placer par rapport à cette manière d'analyser de Félix Kabouzi?
Oui, tout n'est pas encore perdu pour le MLC, malgré que le leader ait des difficultés. C'est que le parti doit faire ses reconstituer les efforts et trouver des nouvelles stratégies pour continuer la lutte et pouvoir aussi gagner les élections prochaines.
Merci. Michel Toumba, vous avez suivi Albert Omba, tout n'est pas perdu, on doit mobiliser, le MLC doit mobiliser ses troupes et les efforts pour voir les autres échéances à venir.
Oui, mais moi je pense qu'il y a lieu de se rappeler que le MLC, comme tout autre parti politique, est une structure organisée. Hein. Mm-hmm. Même si le leader, le président n'est pas là, il y a le secrétaire général qui fait d'office l'intérim du président, M. François Mamba, et je pense qu'il a le poids voulu pour conduire ce parti. Penser déjà à remplacer un président serait une façon de mal croire. Moi, je pense que c'est les gens du MLC, les responsables politiques du MLC doivent continuer à croire.
Merci.
Et croire est un verbe qui implique l'action. L'action serait de laisser Jean-Pierre Bemba comme président et de croire à la réussite que sa défense va balayer toutes les accusations du procureur et que Jean-Pierre Bemba va avoir gain des causes. Cette croyance est très importante dans l'action politique.
Merci.
Croire est un verbe qui implique l'action.
Nous passons donc au deuxième thème de notre tribune de la presse. 5 millions de dollars américains, c'est le montant que le gouvernement des États-Unis promet pour tout renseignement utile sur 13 génocidaires rwandais supposés encore présents en RDC. L'ambassadeur des États-Unis l'a annoncé le mercredi dernier à Kinshasa à la cérémonie du lancement du programme Récompense pour la justice. Selon le diplomate américain, ces personnes encore en liberté sont accusées par le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, de génocide et des crimes contre l'humanité. L'impunité dont jouissent ces personnes représente, selon l'ambassadeur Garvelin, une menace à la stabilité et à la réconciliation dans la région du Grand Lac. On écoute l'ambassadeur Garvelin.
C'est un programme en fait qui voudrait publier le fait que ces criminels existent toujours. Nous avons un numéro de téléphone auquel des personnes qui ont des informations sur ces criminels peuvent nous donner des renseignements, et nous avons aussi un système pour suivre en fait les renseignements et vérifier les renseignements qu'on reçoit pour finir par les capturer. Ce programme va être un complément, un supplément aux aux activités qui sont déjà en cours de pacification. Parce que l'existence de ces personnes dans cette région continue à créer des tensions entre le Congo et le Rwanda et dans la région. Donc il faudrait vraiment les amener à la justice et les capturer. Et je pense que ce programme va renforcer toutes les autres activités qui envers la paix et le rapatriement et la réconciliation.
Les propos de l'ambassadeur William Garvelin ont été recueillis par René Capita. De son côté, le gouvernement congolais accueille avec satisfaction le lancement de ce programme. Tshikesh Dimon, ministre congolais de la Défense, qui a pris part à cette cérémonie, a déclaré que ce programme est un symbole que désormais la RDC ne servira plus de sanctuaire aux criminels. Parmi les personnes recherchées, il y a Augusta Bizimana, Idelphonse Niseimana, Protès Mirania, Grégoire Ndaimana et Félix Kabuga. Le gouvernement des États-Unis demande à quiconque aura des renseignements sur eux de contacter le 081-715-2501 ou écrire à l'adresse suivante Reward for Justice RDC @yahoo.com. Reward for Justice écrit en un mot comme suit Reward Justice RDC @yahoo.com. Réaction Nicodème Bakoleta, vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Béni dans le Nord Kivu, un montant pour mettre la main sur des génocidaires. Comment est-ce que cette information est d'abord accueillie dans cette partie de la RDC?
Bon, en fait, on met à prix les têtes de ces personnes accusées de génocide. Il ne faut pas faire de devis que ce sont des messieurs qui bénéficient des chiffres de liens invisibles. Alors là, ça soulève déjà la question même de sécurité de personnes qui peuvent vouloir donner des informations. Bon, en plus, il faut noter que ce n'est pas partout qu'on a de réseau téléphonique ou Internet pour pouvoir donner ces informations.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'il faut en dehors des réseaux téléphoniques et autres?
Oui, en fait, en dehors des réseaux téléphoniques, il faudrait sensibiliser les chefs locaux, parce que vous savez, ces personnes ne peuvent se cacher dans les tempos de la forêt où il n'y a même pas de réseau. À mon sens, je trouve qu'il fallait sensibiliser aussi les chefs locaux pour qu'ils s'impliquent dans la recherche de ces prisonniers accusés. Mais aussi, il faut les sécuriser, parce qu'on ne sait pas, on peut lui donner l'information, mais après, ça retourne, parce que j'ai dit tout à l'heure que ça peut être un réseau bien organisé qui soutient ces personnes.
Merci Nicodème Bakoleta. Michel Toumba, vous avez suivi Nicodème par rapport à cette question, les 5 millions de dollars américains pour rechercher les têtes des génocidaires. C'est le gouvernement américain qui donne cette somme. Nicodème a dit qu'il faudrait pas seulement compter sur les réseaux de téléphone, il y a également la sensibilisation des chefs locaux et aussi la sécurité des personnes qui détiendraient des informations en ce sens.
Oui, tout à fait. Nicodème a raison. Mais je pense que les radios communautaires, les radios qui travaillent à l'intérieur, dans les provinces, peuvent relayer cette information et dans les langues locales pour que les populations locales arrivent à comprendre la quintessence de la chose. Mais pour le prix de 5 millions de dollars décidé dans le cadre du projet Reward for Justice, c'est une très très bonne affaire. Moi je pense que on doit inciter les gens à dénoncer ces criminels. Parce que en Afrique, on doit arriver quand même à amener les gens à comprendre que la vie humaine est sacrée. Et c'est ces gens qui sont recherchés aujourd'hui. Certainement, s'ils sont recherchés, la TPI doit avoir compris que ce sont des gens qui ont commis des atrocités, qui ont tué des millions de personnes. Moi, j'encourage le peuple congolais, surtout la population de l'Est, à dénoncer ces gens, afin qu'on puisse les arrêter et à les amener à Arusha pour qu'ils répondent de leurs actes criminels. J'encourage la population congolaise à les dénoncer pour qu'on puisse les arrêter.
Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM, Michel Toumba encourage la population de dénoncer. Il évoque également que l'on puisse utiliser les radios communautaires pour justement faire passer le message afin que ces différents génocidaires puissent être déférés devant les juridictions, notamment le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. Quel est votre point de vue à ce sujet?
Oui, ça me rappelle un peu le Far West, là, le western romain après. Mais c'est que moi, je pense que le problème devait être résolu d'une façon globale. C'est-à-dire que la communauté internationale devait mettre le moyen, d'abord à l'armée congolaise, pour mettre fin, pour bouter dehors toutes les milices qui circulent, les étrangers qui circulent dans l'est du pays. C'est-à-dire, alors que c'est un montant de 5 millions, si on pouvait faire une campagne beaucoup plus avancée, c'est-à-dire avec des publications de photos dans des villages, de cadeaux, faire une sensibilisation, ça pourrait aider à ce que tout Congolais puisse participer d'une façon directe à cette campagne. Ça pourrait vraiment aider à ce qu'on puisse dénoncer et rapatrier tout, pas seulement les 13 génocidaires, mais tous les ex-combattants ou ex-phares, ex-tout ça, rwandais, qui vivent encore dans le territoire congolais. Vous vous souviendrez que c'est 3 millions de populations rwandaises qui ont été déversées à 1994 à RDC. Tout a été saccagé. Maintenant, il faut les ramener. Mais comment les ramener? Oh, il y a trois opérations qui ont été faites en 96, d'abord avec l'AFDEL, qui a pu évacuer tous ces gens avec l'appui de la APR, de l'armée rwandaise. Il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises à RDC. Tous les Hutus ont été massacrés à Mugunga, à Buera, à Tingitingi, à Buera, au niveau de Poncherville, en Bandaka. Et ces dossiers-là, on a envoyé une commission Gariton pour qu'on trouve une solution à tous ces massacres. Mais aujourd'hui, c'est un dossier qui reste dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'il faut résoudre le problème dans sa globalité. Au moment où on parle de retour d'FDLR, en choisissant les trois têtes, qu'on choisisse aussi tous les groupes doivent rentrer.
Félix Kabouzi, tous les groupes doivent rentrer. Une vision globale pour résoudre cette question des génocidaires. Et également, ça ce sont les propos de Albert Omba qui pense qu'il faudrait que la communauté internationale puisse donner de moyens aux FARDC afin que l'action soit faite d'une manière généralisée, c'est-à-dire que tous les groupes armés étrangers, notamment les FDLR, puissent partir ensemble. Donc, comment vous percevez cette question?
Oui, je crois que c'est ça la vision qu'on doit avoir dans le règlement de ce dossier. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'il s'agit en fait de la poursuite de la campagne qui avait déjà été menée par le passé. Si ma mémoire est bonne, en 2002, des photos avaient même été publiées dans la presse des différents génocidaires qui étaient poursuivis. Et les 13 sont éventuellement parmi ceux qu'on n'a pas encore réussi à capturer. Donc il faut dire ici que ce sont des gens déjà identifiés comme ayant participé au crime de génocide et ils sont poursuivis par le tribunal d'Arusha. Donc à côté de ces 13, il y a évidemment le groupe, l'ensemble de FDLR qui sont qui ont participé ou qui continuent à cultiver l'idéologie du génocide. Et c'est là où j'appuie totalement l'analyse de Omba. Je pense que capturer les 13, puisqu'effectivement leurs photos sont évidemment déjà déployées dans plusieurs aéroports, j'ai déjà vu ça, même à l'intérieur du pays, on voit les photos de ces 13 qui sont affichées, que ce soit à Djili ou même dans d'autres aéroports du pays, ces photos-là sont déjà là, je crois que la campagne de sensibilisation se poursuit effectivement. Mais les prendre 13-là sans régler le problème des autres, génocidaires ou de ceux qui cultivent l'idéologie du génocide, qui refusent de rentrer chez eux parce qu'ils pensent qu'ils doivent rentrer s'exterminer ou doivent continuer à se réorganiser ici pour rentrer exterminer les autres. Je crois que là, on n'aura pas résolu le problème.
Rapidement, pour résoudre ce problème, suggestion, oui.
La suggestion, c'est, et moi je l'ai toujours dit, la suggestion, c'est que le gouvernement congolais se décide d'une bonne fois pour toutes de mettre les militaires à la trousse de ces extérieurs, de détruire leur camp et de les obliger à rentrer chez eux.
Merci Félix Kabouzi. Nous passons donc au troisième sujet de notre rendez-vous hebdomadaire de la presse. Arrivé le 7 juin dernier à Kinshasa, de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette délégation onusienne a eu des entretiens avec le Premier ministre et le président des deux chambres du Parlement. Elle a eu également un entretien d'environ une heure avec le président de la République, Jean-Maurice Ripert, représentant permanent de la France près les Nations Unies, nous fait le point.
Nous nous sommes entretenus en privé avec le chef de l'État. Nous avons abordé un peu les principaux sujets de préoccupation du Conseil de sécurité. Bien entendu, le rôle très positif de la MONUC, qui est la plus grosse opération des Nations Unies, comme vous le savez. Et le chef de l'État a fait part de sa satisfaction et de son espoir que, progressivement, la MONUC puisse s'occuper moins de sécurité et que les Nations Unies puissent s'occuper plus de développement, de questions sociales, ce qui traduirait la conclusion de la paix, le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire. Nous avons évidemment évoqué avec lui, et ce que je dis vaut également pour les deux présidents des assemblées, la situation humanitaire, notamment dans l'est du pays, et il a insisté, le président, pour dénoncer lui-même le climat de violence qui malheureusement continue à régner contre certaines personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes ou les enfants.
La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a clôturé sa visite le dimanche dernier à Goma. Le Conseil de sécurité a exprimé sa volonté de s'activer pour soutenir le gouvernement congolais au retour de la paix dans cette partie de la RDC et dans la région des Grands Lacs. C'était à l'issue de la rencontre que la délégation a eue avec les membres de la société civile du Nord Kivu au quartier général de la MONUC, Goma. La société civile, de son côté, s'est dit satisfaite de l'engagement du Conseil de sécurité de s'impliquer pour le retour et la stabilité de la paix au Nord Kivu. Elle demande cependant à la MONUC d'être plus active avec un mandat à adapter aux réalités actuelles. Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu, au micro de Denise Loukesso.
Une réunion très capitale pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région, dans la mesure où les ambassades des Nations Unies ont eu à échanger avec la société civile les contraintes majeures à la stabilisation et à la reconstruction de la région des Grands Lacs. La MONUC a été très intéressée quand nous avons dit que nous voulions voir la MONUC beaucoup plus active, avec un mandat beaucoup plus adapté aux réalités actuelles, donc où ils ne sont plus observateurs, mais où ils peuvent avoir la possibilité d'agir contre ceux-là qui sont en train de ne pas respecter le cessez-le-feu, contre ceux-là qui sont en train de vouloir traîner la République démocratique du Congo dans une situation stationnaire. Nous voulons que la volonté politique qui est développée en République démocratique du Congo soit la même volonté politique qui soit développée dans les pays d'origine de ces groupes armés qui sont en train de déstabiliser notre pays.
Albert Omba, je rappelle que vous êtes journaliste des Numérica et Tropicana FM à Kinshasa. La délégation du Conseil de sécurité réaffirme son engagement de soutenir la République démocratique du Congo pour consolider la paix et la stabilité.
Oui, c'est une bonne chose, comme vient de dire nos amis de la société civile du Nord Kivu. Maintenant, il faut requalifier le mandat. Parce que nous savons que le mandat actuel de la MONUC va prendre fin vers la fin de l'année.
Pourquoi requalifier ce mandat?
Requalifier dans le sens qu'il faut maintenant, dans les zones de troubles, mm-hmm. il faut que les forces des Nations Unies puissent être beaucoup plus actives, c'est-à-dire beaucoup plus dissuasives, de façon que c'est ce qui va nécessiter un déploiement de ces forces dans les foyers où il y a beaucoup plus de tensions. Et avec ce déploiement, ça va permettre maintenant à la population congolaise d'évacuer ses occupations au lieu qu'il y ait des zones tampons, des zones neutres où on ne peut pas avoir accès. Ça, c'est la première des choses. La communauté internationale devait aussi aider le Congo à procéder au désarmement. On a arrêté le processus de désarmement, ce qui crée encore beaucoup de désordre, beaucoup de petites milices maï-maï passées par là. Mais si on avait continué avec l'appui que la communauté avait accordé au gouvernement pour le désarmement, ce programme a été arrêté et maintenant tous ces miliciens non désarmés continuent à créer des problèmes aux Congolais. C'est aussi un aspect important. Et je crois que le Conseil de sécurité, qui a bien vu ce qui se passe, doivent aussi protéger et surtout soutenir le programme à Mali. C'est un programme qui, avec toutes les ambitions, ne dispose pas de moyens pratiques. Le gouvernement ne dispose pas d'assez de moyens financiers pour vraiment rétablir la paix au nord aussi de Kivu. Il faut un appui d'une nouvelle, un nouvel appui avec beaucoup de moyens financiers pour mettre fin à tout cela.
Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Béni dans le Nord Kivu. Vous avez suivi Albert Omba qui il est du même avis que la société civile du Nord Kivu. Il faudrait que la MONUC puisse requalifier, il souhaite, il propose de requalifier son mandat pour avoir le pouvoir de dissuasion et que ses forces puissent intervenir dans différents zones que l'on puisse reprendre avec le désarmement des différents groupes armés, notamment des milices dans cette partie de la République démocratique du Congo, et que le Conseil de sécurité soutienne également le programme Amani. Comment vous analysez cette visite et par rapport aux propos également de Albert Omba?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Albert Omba, parce que vous savez, notre pays, surtout la partie Est, est confronté à beaucoup de problèmes. Et il est signalé la présence de plusieurs groupes armés étrangers avec les FDLR, les Haïdiens, Nalou, mais aussi des insurgés, tous sont là. Il faudra réqualifier vraiment le mandat de la MONUC. Vous savez, ici à l'Est, quand on apprend que la MONUC arrive à fin mandat, ça fait peur, hein. Ça fait peur avec tout ce que nous avons ici comme groupe armé, alors que les forces armées de la République du Congo se recherchent encore. En tout cas, ici, la population voudrait voir la MONUC accompagner la République démocratique du Congo dans le processus de paix et avec une force dissuasive qui va permettre à ce que les groupes armés qui veulent s'insurger puissent être matés.
Merci.
On a parlé de la conférence de Goma. Et à la conférence de Goma, il y a des personnes qui se sont présentées, qui ont signé l'acte d'engagement, mais qui en réalité n'ont pas un effectif sur terrain. Alors cela fait qu'aujourd'hui, par exemple ici à l'Est, on assiste à des recrutements ça et là pour constituer l'effectif. Mais on se demande, tous ces recrutements, c'est pas pourquoi. Donc ça fait peur. Il faut que la MONUC puisse avoir un mandat solide pour assurer la sécurité et la paix ici à l'Est du pays.
Merci Nicodème. Michel Tumba, Nicodème réitère la même demande de Albert Omba. La MONUC doit requalifier son mandat et puis qu'elle soit de plus en plus permanente dans ce coin de notre pays. Votre réaction?
Je suis parfaitement d'accord, confrère, avec ce que dit Félix. Hein. Il faut requalifier le mandat de la MONUC, mais pour moi, cette requalification, si signifie qu'il faut une concentration des efforts de la MONUC dans les zones d'insécurité à l'Est.
Merci beaucoup.
Ça, c'est une bonne affaire parce que ça doit appuyer, n'est-ce pas, la décision de la délégation du Conseil de sécurité. Et selon le ministre, l'ambassadeur Ritter, qui a dit qu'on appuie les efforts de la RDC pour maintenir la paix et la sécurité à l'Est du pays.
Merci. Hein? Oui, allez-y rapidement.
Oui. Oui, mais moi, j'ai une chose.
Hein. Oui.
Je pense que le problème réel, j'ai l'impression qu'il n'a pas été vu.
Lequel?
Que j'ai l'impression qu'il y a un problème majeur qui bloque quand même tous ces groupes armés étrangers de rentrer chez eux, sans préjudice à toutes les dispositions prises jusqu'ici par le gouvernement congolais pour le rapatriement de ces groupes. Moi, je pense qu'il y a lieu de jeter quand même un coup d'œil rétrospectif à cette problématique, à cette difficulté qui fait la problématique du rapatriement de ces groupes au Rwanda.
Merci.
Et ceci, oui, je peux ajouter rapidement.
Oui,
souvent, quand on suit les responsables politiques rwandais, ils disent des choses qui nous confirment qu'ils ne veulent pas du retour de ces gens-là au Rwanda. Tout récemment, sur les antennes de votre radio, le responsable du Rwanda a dit ceci, je cite, ce groupe a un leadership génocidaire très dangereux. Fin de citation. Donc, le nom dit, c'est, on n'a pas besoin d'eux ici au Rwanda. Alors, le Rwanda ferme en quelque sorte la porte. Et si nous leur demandons de rentrer absolument,
merci.
Ces gens sont quand même pris entre deux pressions. Ces gens sont quand même pris entre le parcours et l'enclume. Moi, j'ai pensé que la délégation-là devait en principe examiner ce problème fondamental qui constitue la réelle problématique du retour de ces gens-là.
Merci
la sensibilisation,
beaucoup.
Mais ça fait 14 ans, ça fait 10, plus de 10 ans aujourd'hui qu'on les sensibilise à rentrer.
Merci voilà. Michel Tumba, merci beaucoup, nous vous avons suivi. Félix, rapidement, placez un mot.
Non, je crois que la seule chose à ajouter, c'est que il faudrait vraiment éviter les discours. Il faut passer rapidement aux actes, puisque c'est la 9e fois que le Conseil de sécurité arrive.
Passer aux actes, c'est dire
Non, passer aux actes, ça veut dire engager, par exemple, les troupes de la MONUC sous le chapitre 7. Par exemple, à Nitouri, les rares moments où la MONUC a fait parler, n'est-ce pas, la poutre, certains groupes armés ont obéi. Je crois que pour le cas de l'Est, il va falloir aussi que, à ce moment-là, la MONUC puisse également passer sous le chapitre 7.
Merci Félix Kabouzi. Nous sommes donc à la fin de cette tribune de la presse. Merci donc à vous, nos invités. Merci à William Konda et à Dimaté qui étaient à la réalisation. Sans oublier Willem Lungamba qui tenait la technique, bon suivi des programmes sur Radio Capitale.